présenté par Camille Magnard. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Faut-il vraiment parler à tout le monde au nom d'une diplomatie qui se veut équilibrée après Vladimir Poutine et Donald Trump? Emmanuel Macron reçoit ce midi le président turc Erdogan à l'Elysée. Isolé sur la scène internationale, Ankara cherche à renouer les liens avec l'Europe via la France. Donc nous serons en ligne depuis Istanbul avec Alexandre Billette au début de ce journal. À chaque chose, malheur est bon, la Maison Blanche resserre les liens avec le parti républicain sur fond de grands déballages dans la presse et en librairie sur les coulisses de l'administration Trump. L'entourage du président tourne la page du conseiller d'extrême droite Steve Bannon, analyse à suivre d'Éric Biegala. Au Pérou, les esprits s'échauffent autour du sort de l'ex-dictateur Alberto Fujimori. Malgré sa condamnation pour crime contre l'humanité, il a été gracié et donc libéré par l'actuel président. Les blessures du passé ressurgissent, nous dira Nadine Epstein. Et puis en France, ratés et dissimulations chez les services de renseignement. Mediapart révèle que l'antiterrorisme était informé du projet d'un des auteurs de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray à l'été 2016. Le signalement s'est perdu. La hiérarchie a tenté de masquer son erreur en post-datant le signalement. Nous entendrons le journaliste de Mediapart, Mathieu Suc, tout à l'heure. Nous serons également au ministère de l'Intérieur pour le lancement de la concertation sur le rôle social des entreprises, acteurs de biens communs. Vaste ambition et décryptage de Catherine Pétillon. Et puis nous irons en Corse dans ce journal où Jacqueline Gourault, la madame corse du gouvernement, rencontrait ce matin les leaders nationalistes à la tête de la nouvelle collectivité territoriale unique. Un dialogue constructif, a priori, nous dira Cyril Graziani. Et puis l'invité de ce journal, c'est la journaliste du Monde, Raphaël Baquet, avec sa collègue Ariane Chemin. Elle signe La Communauté chez Albin Michel, enquête au long cours dans la ville de Trappes, dans les Yvelines.
Elle déboulonne quelques clichés, elle nous livre aussi une autre mémoire des événements et aussi une autre temporalité. Notre invitée aujourd'hui dans la deuxième partie de la Grande Table à partir de 1955, c'est Ludivine Bantini, historienne pour son ouvrage Essai 1968, De grand soir en petit matin. On continuera la discussion avec l'invité de la première partie, l'écrivain philosophe Jean-Christophe Bailly.
C'est donc la première visite officielle de Recep Tayyip Erdogan en France, la première depuis l'été 2016 et cette tentative de coup d'État en Turquie qui avait entraîné, on le sait, le virage répressif qui a touché toute la Turquie depuis, plus de 55 000 personnes arrêtées en un an et demi, 140 000 fonctionnaires limogés, des journalistes, des universitaires, des avocats jetés en prison et l'homme fort d'Ankara qui va donc déjeuner dans maintenant un peu moins d'une demi-heure avec Emmanuel Macron pour nous, dit-on, relancer le partenariat Europe-Turquie entre autres sujets. Sur cette question, les discours officiels turcs ces derniers mois étaient très virulents, très hostiles, il faut bien le dire, à l'Europe, à l'Allemagne et à la France. Avant cette visite à Paris, le ton est tout de même devenu plus conciliant, c'est ce qu'a constaté à Istanbul notre correspondant Alexandre Billette.
Des relations apaisées, des querelles diplomatiques oubliées, c'est un peu le ton que veut donner Ankara à cette visite. Les autorités turques qui multiplient depuis quelques semaines les appels du pied en direction de l'Europe. En décembre, Recep Tayyip Erdogan a salué la position des pays européens lors de la crise sur le statut de Jérusalem. En fin d'année, il a souhaité pour 2018 de bonnes relations avec l'UE. Et ce matin, avant son départ pour Paris, il évoquait encore le caractère vital des relations entre la France et la Turquie pour la paix mondiale. Mais au-delà du ton et des bons mots diplomatiques, reste à voir si cette visite aura de véritables conséquences, surtout que vu de Turquie, c'est l'Allemagne qui est le principal interlocuteur européen. Et bref, côté turc, on l'aura compris, on a préparé cette visite en mettant l'accent sur les dossiers qui fonctionnent, échanges commerciaux, coopération militaire et vente d'armes. Mais il y aura forcément aussi sur la table les dossiers compliqués, lutte contre Daesh, guerre en Syrie, situation en Iran, statut de Jérusalem. Sont comptés ces militants du PKK et sympathisants de Fethullah Gulen réfugiés en Europe, selon Ankara, qui voudraient les voir extradés. Et quant à la question des droits de l'homme et de la liberté de la presse qu'Emmanuel Macron a dit vouloir évoquer, le porte-parole de la présidence turque a déjà répondu et sur ce dossier en revanche, Ankara n'a pas changé de ton. Le président français est mal informé. Recep Tayyip Erdogan pourra lui expliquer.
Alexandre Billette à Istanbul pour France Culture. Aux États-Unis, la maison Trump n'aura finalement pas réussi à empêcher aujourd'hui la parution d'un livre qui s'annonce particulièrement embarrassant sur les premiers mois de la présidence. Il est signé ce livre du journaliste Michael Wolff intitulé Le feu et la fureur et il dresse un portrait, nous dit-on, glaçant du fonctionnement de la Maison Blanche depuis un an. On y retrouve notamment l'ancien conseiller Steve Bannon qui règle ses comptes après avoir été limogé l'an dernier. Bannon incarnait la ligne la plus droitière dans l'entourage de Trump avec la publication du livre de Michael Wolff. Son divorce d'avec le président américain est définitivement consommé. Et tout ça pour le plus grand soulagement, il faut bien le dire, du Parti républicain, Éric Guégalin.
Oui, Camille, certes, Steve Bannon n'était plus, n'était plus à la Maison-Blanche depuis août dernier, mais l'ancienne éminence grise de Donald Trump passait pour avoir toujours l'oreille du président. Surtout, Steve Bannon jouait toujours un rôle très important au sein du Parti républicain, président aux destinées des candidats du Parti conservateur qui entendaient se faire élire ou réélire aux législatives de l'automne prochain. De nombreux candidats locaux ont ainsi cherché à obtenir l'adoubement d'un Steve Bannon pour concourir dans les primaires du printemps sous les couleurs du courant populiste au sein du parti. Bannon commandait à cet égard l'assurance d'un soutien médiatique aux futurs candidats grâce à son site d'information Breitbart News, très consulté dans les cercles conservateurs. Il garantissait également le soutien financier de quelques milliardaires acquis aux causes nationalistes et populistes qu'il défendait. Mais l'étoile de Bannon avait pâli une première fois avec la cinglante défaite du candidat qu'il avait ainsi imposé à la sénatoriale partielle de l'Alabama en décembre dernier. Le républicain bannoniste Roy Moore avait en effet perdu face à un démocrate du jamais vu depuis 25 ans en Alabama. Aujourd'hui que Steve Bannon a été officiellement répudié, si l'on peut dire, par Donald Trump lui-même, et que certains des actionnaires de Breitbart ont ouvertement estimé qu'il n'avait plus rien à y faire, son adoubement des candidats à l'investiture républicaine n'a plus grande valeur, et ce pour le plus grand bonheur des caciques du Parti républicain, ceux-là même que Bannon s'était juré de dégager aux élections de midterm à l'automne prochain. En fait, la faction populiste et la plus trumpiste du parti vient de perdre à la fois son idéologue et sa principale figure de proue.
Éric Biegala, et pour confirmer donc cette réconciliation désormais entre Donald Trump et le Parti républicain, cette réunion qui est prévue donc entre le président américain et les principaux responsables du parti, ce sera ce week-end dans la résidence présidentielle de Camp David. Il s'agira, nous dit-on, de fixer les priorités législatives pour 2018 et préparer les élections de mi-mandat en novembre prochain. C'est confirmé, le dialogue va reprendre entre les deux Corées. Pyongyang accepte une rencontre mardi prochain, 9 janvier, dans le village frontalier de Panmunjom. C'est le seul point de contact entre le Nord et le Sud. Les discussions porteront sur l'envoi d'une délégation de sportifs nord-coréens aux Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud. Mais d'autres sujets d'intérêt commun, nous dit-on, seront aussi abordés. Hier soir, Washington, Séoul et Tokyo avaient accepté de reporter leurs exercices militaires dans la région pendant la durée des discussions et des Jeux Olympiques. Et c'est cette fois une grâce présidentielle qui ne passe vraiment pas au Pérou. Cette grâce de l'ex-président Alberto Fujimori. Il a été au pouvoir au Pérou de 1990 à 2000. Il a été condamné pour crimes contre l'humanité, pour des exactions commises pendant cette période. Alberto Fujimori a donc été libéré hier à sa sortie de l'hôpital, gracié par l'actuel président péruvien Pedro Pablo Kuczynski. Bonjour Nadine Epstein.
Bonjour.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette remise en liberté de Fujimori divise l'opinion péruvienne.
Et le Pérou risque de s'enfoncer dans une grave crise politique, puisque la grâce que PPK a accordée à Fujimori est tombée 3 jours après que le Congrès péruvien avait voté pour la destitution de Pedro Pablo Kuczynski. Et c'est pour se maintenir au pouvoir que le président péruvien a pris cette décision de libérer Fujimori. Cet arbitrage a déclenché une vague de protestations et de démissions au sein du gouvernement. Mais Fujimori vient de sortir libre, gracié des crimes qu'il a commis et accueilli par de nombreux partisans, mais peut-être pas pour longtemps. Geneviève Garrigos, chargée de l'Amérique latine à Amnesty International.
Fujimori, ayant été condamné à 25 ans de prison pour crime contre l'humanité alors qu'il était président, cette grâce est bien évidemment contestée puisqu'elle porte un coup très dur à la lutte contre l'impunité en Amérique latine et ailleurs dans le monde, et bien sûr aux droits des victimes. Et un recours a été déposé devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui devrait se réunir le 2 février pour prendre une décision ayant elle-même le pouvoir d'annuler cette grâce. Et c'est vrai que cette grâce, de facto, annulait toutes les procédures. Et là, ça pourrait revenir justement sur cette grâce et permettre de poursuivre les différentes procédures.
Mais l'ex-homme fort du Pérou est encore beaucoup pour ses compatriotes et pour une partie du clan fujimoriste. L'homme qui a vaincu le sentier lumineux et a arrêté le chef de la guérilla maoïste et le président qui a simulé l'économie péruvienne. Et pour une autre large partie du Pérou, Fujimori est un dictateur corrompu, responsable de massacres commis par les escadrons de la mort. Des milliers de Péruviens avaient manifesté à Lima contre la libération de Fujimori. Il devrait à nouveau défiler la semaine prochaine.
Nadine Epstein, merci à vous. Il est midi, passé de 40 minutes sur France Culture. Les services de renseignement français auraient-ils pu empêcher l'attentat terroriste de Saint-Étienne-du-Rouvray ? C'était en août 2016 et à cette question, le journal Mediapart affirme aujourd'hui que oui, il y a eu des ratés dans la transmission d'informations qui auraient pu éviter l'attaque de l'église et le meurtre du père Hamel. L'auteur de cette enquête, c'est Mathieu Suc, en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors à Mediapart, vous êtes spécialisé dans l'antiterrorisme et les services de renseignement, des services qui, donc, selon vos informations, avaient signalé le projet déjà assez clair de l'un des terroristes, Adel Kermiche, quelques jours avant son passage à l'acte.
Alors, petite précision, c'est pas des services, c'est un service, la DRPP, donc le service de renseignement de la préfecture de police de Paris. Et en fait, c'est dans le cadre d'une veille informatique sur les réseaux sociaux qu'un cyberpatrouilleur de la DRPP va tomber sur la chaîne Telegram d'un des deux futurs assassins de Kermiche. On est 5 jours avant l'attentat. Il va constater qu'il y a un contenu avec des marqueurs assez fort, vu que Kermiche explique que c'est bien d'égorger des prêtres, que ça peut provoquer une sidération en France.
Et qu'il se trouve à Saint-Étienne-du-Rouvray lui-même. On a les deux éléments.
Dans un autre message, il enjoint des fidèles à le rejoindre à Saint-Étienne-du-Rouvray où il donne des cours à la mosquée. C'est juste ça. Il dit pas allons égorger le prêtre de l'église.
Et tout de même, il y a une note qui est rédigée, un signalement qui est fait comme la procédure le veut.
Qui est signalé. Et donc la préfecture de police, là, dans un communiqué de presse, vient de reconnaître que effectivement il y avait bien une note qui avait été faite le 22 juillet. Hier, il nous déclarait qu'on les avait appelés avant publication, qu'il ne commenterait pas des affirmations venant de sources farfelues.
Cette note, alors, Mathieu Suc, quel est son parcours et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas eu d'effet?
Ce qu'on raconte, c'est que cette note... Alors, je précise quand même, c'est que on n'a jamais dit que ça aurait permis d'empêcher l'attentat. On ne fait pas de la politique fiction. On cite même une source interne à la DRPP en disant mais il y avait tellement d'autres échelons que ça n'aurait pas eu le temps d'arriver et d'être utile à temps. Je ne sais pas, là, ça c'est pas à moi de le déterminer. Ce que nous on dit et ce qu'on raconte factuellement, c'est que il y a tout un tas donc de validations hiérarchiques et que le premier échelon a passé avant d'aller dans un autre service, puisque la DRPP est compétente sur Paris Petite Couronne. Là, on parle d'un homme qui est visiblement basé en Normandie à Saint-Étienne-du-Rouvray. Donc le policier fait une note pour que ça soit transmis au service compétent. Sauf que on est en plein mois de juillet et il manque des personnes dans la chefferie de la DRPP et il va manquer une signature. Et donc tant qu'il n'y a pas cette signature, la note est bloquée. Et elle avait après d'autres échelons à faire. Et quand elle survient 5 jours après l'assassinat du père Jacques Hamel, la DRPP ou certains chefs au sein de la DRPP vont réaliser l'ampleur du raté.
C'est à ce moment-là la deuxième de vos révélations, c'est qu'il y a une volonté de dissimuler et de post-dater l'information.
Et ils vont convoquer le brigadier et lui demander de refaire sa note. Alors, dans le communiqué de la préfecture de police paru il y a quelques heures, il conteste le terme de post-daté en disant non, mais il y a bien une première note qui existe toujours et simplement il y en a une deuxième. Il y en a une deuxième le 26 et on a prévenu à l'oral les services compétents. On n'a jamais écrit l'inverse. On dit bien qu'ils essayent de faire détruire, de post-dater la première note. Ils n'y arrivent pas dans l'onglet propriété. Ça garde toujours la note du 21 ou 22 juillet. Et donc, ils font refaire une deuxième note. Mais je pose juste une question. C'est pourquoi faire refaire une note au même brigadier avec les mêmes informations à 5 jours d'intervalle? Pourquoi ne pas envoyer la première? Si on ne cherche pas à cacher quelque chose.
Mathieu Suc, pour terminer sur les réactions, il y a eu depuis des personnes qui ont été écartées des services suite à votre publication.
C'est France Inter, ce matin, qui révèle, citant la préfecture de police, que j'ai contactée mais qui pour l'heure ne me répond pas, mais France Inter révèle que la préfecture de police lui a dit que le brigadier en question serait sur le départ suite aux révélations de Mediapart, parce que c'était ma source. Or, jamais dans l'écriture du papier, nous n'avons dit qu'il nous avait parlé, et de la même manière que nous n'avons jamais mentionné précisément nos sources. On l'explique même dans notre boîte noire pourquoi. Et
on voit en tout cas les réactions.
Très bien. Est le seul, en plus, qui fait son travail dans notre récit. C'est-à-dire avant même que la préfecture de police mène une enquête sur ce qui s'est réellement passé, parce qu'on ne demande pas de prendre notre but en blanc nos informations. L'État doit faire les vérifications nécessaires. Il n'y a aucun souci là-dessus.
Mathieu Suc, on va devoir terminer. On va renvoyer nos lecteurs vers votre enquête très complète sur le site de Mediapart. Merci à vous, en tout cas, d'avoir été avec nous pour développer toutes ces révélations. On va enchaîner à présent sur les suites de l'actualité en France avec cette question posée par le gouvernement qui devra l'occuper pendant plusieurs mois. Une entreprise, à quoi ça sert? Question fondamentale, donc, qui va occuper une mission intergouvernementale lancée aujourd'hui. Un groupe de concertation mobilisé en vue du projet de réforme de Bruno Le Maire sur les entreprises en France, leur gouvernance et leur rôle dans le bien commun. La dite concertation est lancée ce matin avec force ministres et partenaires sociaux au ministère du Travail, où se trouve Catherine Pétillon pour France Culture.
Ils sont donc quatre ministres pour lancer les travaux et une mission va être confiée à Jean-Dominique Sénard, PDG de Total, et Nicole Nota, ex-dirigeante de la CFDT. Ils ont deux mois pour redéfinir le rôle et les missions de l'entreprise. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le sujet est loin de faire l'unanimité. La question sur la table, c'est dans quelle mesure et de quelle manière il faut faire une place dans l'entreprise à d'autres intérêts que ceux des seuls actionnaires, à savoir ceux des autres parties prenantes, comme les salariés, et comment améliorer le respect des enjeux sociaux et environnementaux. Pour ce faire, au sein même du gouvernement, les options divergent. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'est dit plutôt réticent à de nouvelles obligations pour les entreprises. Il défend plutôt un nouveau statut optionnel, dit d'entreprise à mission, sur le modèle anglo-saxon. Ce que préconise aussi le MEDEF, opposé à tout changement dans la loi. De son côté, le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, est plutôt favorable à une réécriture du Code civil. C'est ce qui rendrait obligatoire la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux. Les travaux devront mettre tout le monde d'accord en vue de la loi sur l'entreprise qui sera portée par Bruno Le Maire au printemps.
Catherine Pétillon, en clair, les signaux semblent positifs. En Corse, les dirigeants nationalistes Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni ont rencontré ce matin l'émissaire du gouvernement en charge du dossier Corse, Jacqueline Gourault. Ils font état, en tout cas, de déblocage en vue sur les principales revendications corse. Notre séquence interview à présent, c'est une plongée dans cette ville de Trappes dans les Yvelines, au cœur du dernier livre reportage des journalistes du Monde. Ariane Chemin et Raphaël Baquet avec nous pour en parler. Donc l'invité de ce journal, c'est Raphaël Baquet. Bonjour à vous.
Bonjour.
Avec moi également Sophie Delpont pour vous interroger. Bonjour Sophie. Alors c'est ce livre, La Communauté, donc aux éditions Albin Michel, à Raphaël Baquet. Il décrit en gros 40 années d'histoire d'une ville de banlieue parisienne. Ça commence de manière presque bucolique avec des récits d'immigration, de famille, d'enfance entre les barres d'immeubles et les pavillons. Mais progressivement, on comprend qu'à la fin, eh bien, il y a 67 jeunes gens de Trappes qui sont partis mener le djihad avec Daesh en Syrie et en Irak. Le livre ne se résume vraiment pas à ça. Mais est-ce que c'est cette dimension-là qui vous a aussi initié dans votre esprit cette démarche avec Ariane Chemin?
Ah bah c'est une ville inouïe. Je ne sais pas si vous connaissez une autre ville en France qui, à la fois, a vu grandir ses stars les plus populaires, hein, Omar Sy, l'acteur Jamel le plus populaire français, Jamel Debbouze, Anelka, un grand champion, Lafouine, un rappeur internationalement connu, et puis en même temps, effectivement, qui concentre tous les défis du moment, dont le dernier, qui est le départ au djihad de 67 jeunes gens. C'est un record européen, à vrai dire, proportionnellement à la population, hein. La Trappes, c'est 32 000 habitants, tout près de Versailles. Et 67 jeunes gens qui sont partis comme ça mener le combat, et dont beaucoup sont morts d'ailleurs là-bas, c'est effectivement deux facettes, si vous voulez, d'une même société.
C'est un sujet politique également auquel vous avez voulu vous atteler. On vous connaît, vos plumes au Monde, sur les questions politiques principalement.
À vrai dire, il n'y a rien de plus politique que de raconter l'histoire d'une cité. Et celle-ci était tellement emblématique dramatique. C'est à la fois un aspect méconnu de notre histoire commune et en même temps avec des visages que nous connaissons mais dont on ne connaît pas les débuts. Pourquoi, au fond, une telle ville est capable de produire des succès aussi spectaculaires et des échecs aussi patents?
Alors pourquoi, justement, question de Sophie Delpont.
Oui, bonjour. Bonjour. Donc oui, c'est aussi la ville de laquelle était parti Benoît Hamon pour sa campagne présidentielle. Voilà, bon, il produit parfois des profits qui n'ont pas autant de succès qu'Omar Sy ou Jamel Debbouze. Je voulais vous poser une question sur votre livre qui est profondément humain, qui s'attache vraiment à des histoires de ses habitants et qui veut surtout aller à l'encontre des clichés de ce qu'on croit savoir sur la banlieue, notamment ce chapitre, donc chapitre sur Charlie Hebdo, dans lequel on peut s'attendre, parce qu'on s'est habitué à ce qu'on pose la question par rapport aux banlieues, pourquoi les jeunes ont dit, je ne suis pas Charlie. Vous prenez le contre-pied et vous racontez une histoire, donc celle notamment de Jérémy, de son ami Fredo. Est-ce que vous pourriez nous la raconter?
À vrai dire, cette histoire de Charlie est très emblématique parce que, effectivement, l'une des premières victimes de Charlie, vous savez, c'est ces deux hommes qui assuraient la manutention de l'immeuble, et Jérémy, celui qui va voir, hélas, son collègue mourir dans ses bras, hein, victime des frères Kouachi, est de Trappe. Il est justement de Trappe. Il a connu la violence aussi de la banlieue, la solidarité aussi qui peut exister dans cette ville. Il est donc l'un des premiers à être confronté aux frères Kouachi, et quelques jours plus tard, celui qu'on verra sur les réseaux sociaux revendiquer l'attentat contre Charlie est aussi de Trappe. Comme si, au fond, l'histoire se bouclait à ses deux bouts, à la fois victime et terroriste, à la fois auteur de crimes et, hélas, celui qui en pâtit. Et c'est exactement ça, cette banlieue. C'est-à-dire qu'elle résume, au fond, tous les défis qui s'offrent à nous.
Vous écrivez également, donc page 149, « Politique, ce mot interdit aux immigrés auxquels la gauche promet le droit de vote aux élections municipales depuis 20 ans. Diriez-vous que les banlieues n'intéressent les politiques que lors des élections ?» comme beaucoup d'habitants le ressentent.
Oui, c'est vrai. Enfin, en même temps, il ne faut pas avoir une vision trop noire des politiques, car après tout, les élus aussi se débattent pour essayer de sortir leur ville de la pauvreté.
Trappe, ville communiste.
Trappe est une ville pauvre qui a été longtemps communiste, qui est passé socialiste en 2001, sur effectivement des malentendus et le maire actuel Guy Malandin, qui est un ancien ingénieur urbaniste, a au fond pris la ville, alors qu'il est un chevènementiste, il a pris la ville sur la promesse de la construction d'une très grande mosquée qui est à Trappe. Et c'est tout le paradoxe.
Un peu comme c'est le café Manuel Valls à Évry.
Voilà, c'est tout le paradoxe de cette histoire. C'est-à-dire qu'on voit un chevènementiste laïque affirmé qui construit une mosquée, et la revendication d'une mosquée n'était pas illégitime en soi, mais qui a au fond déstabilisé la ville. Et c'est là ce qu'on voit bien les défis d'aujourd'hui. Et de même que c'est une ville qui a à la fois bénéficié des politiques publiques, on ne peut pas dire qu'elle a été abandonnée. Il y a eu 340 millions d'euros consacrés à la rénovation urbaine, qui est assez réussie d'ailleurs. Et en même temps, on voit bien que toutes les difficultés de la ville perdurent.
Vous parlez aussi, Raphaël Baquet, de l'embrasement des banlieues, des émeutes qu'il y a eu en 2005. Et notamment, vous rappelez quelque chose que peut-être on a oublié aujourd'hui, mais la vitesse avec laquelle, notamment, Dominique de Villepin avait, dès le lendemain de la mort de ces deux jeunes dans un transformateur électrique, annoncé que c'était trois cambrioleurs. Et Nicolas Sarkozy en brillant derrière en disant qu'ils n'étaient pas poursuivis par la police. Concernant aujourd'hui donc ce qui s'est passé à Champigny, donc voilà, cette violence, aussi un autre policier à Aulnay-sous-Bois, et les propos de Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, qui parle donc de mécanique de violence, d'un système qu'il faut combattre. Qu'en pensez-vous, vous qui avez enquêté à Trappe?
Ah, la relation avec les policiers est une relation impossible, au fond. C'est-à-dire qu'on le voit bien à Trappe, les habitants de Trappe se plaignent que les policiers ne sont pas suffisamment là, et qu'ils ne luttent pas notamment contre les dealers qu'ils voient dans leur hall des escaliers. Hein. Les jeunes se plaignent d'être systématiquement contrôlés, et donc il y a une espèce de relation impossible, de malentendu éternel. Mais c'est aussi à Trappe qu'il y a eu des émeutes contre le commissariat, des émeutes extrêmement violentes en 2013, à la suite du contrôle d'une femme qui portait un niqab. Et au fond, beaucoup de sociologues pensent que ces émeutes sont aussi les premières émeutes communautaires. Donc on ne peut pas avoir une vision ni angélique ni catastrophique. À vrai dire, cette relation avec la police est catastrophique. Elle est très mauvaise.
Raphaël Baquet, donc, on va renvoyer vers votre livre La communauté avec Ariane Chemin, publié aux éditions Albin Michel. Merci d'avoir été avec nous en studio.
Merci à vous.
Merci également à Sophie Delpont qui assurait cette interview. On va terminer avec la météo. Pour ce vendredi après-midi. Les répliques de la tempête Eleanor font toujours craindre des avalanches et des inondations dans l'est et dans le sud-est du pays. 17 départements restent en vigilance orange. Ailleurs, le temps est pluvieux mais plus calme, avec cet après-midi des températures toujours douces pour la saison, entre 8 et 10 degrés sur la moitié nord, 6 sur les Alpes du Nord, 12 en Aquitaine et jusqu'à 17 degrés autour de la Méditerranée. Cette édition était réalisée par Yacine Bouzard. À 18h, prochain journal avec Benoît Bouscarel.